Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, 25 millions de personnes ont dû abandonner leur domicile en 2014 à la suite d'une catastrophe naturelle. C'est 3 fois plus que les personnes déplacées à cause d'un conflit. Un phénomène qui devrait s'accentuer à cause des changements climatiques qui accroissent l'intensité des événements extrêmes et menacent la productivité agricole dans de nombreux pays. La Fondation Nicolas Hulot a organisé une conférence cette semaine sur ce thème pour mieux le cerner et évoquer des pistes de solutions. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Eco, le magazine qui change le monde mensuellement en kiosque et quotidiennement sur Internet. Titre ce mois-ci sur le goût assassiné. Bonjour François Meurice.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes l'un des rédacteurs en chef de Terra Eco. Alors nos assiettes sont le champ de bataille des logiques économiques et commerciales. Ça ne date pas d'hier, mais c'est toujours aussi écœurant.
Oui, on s'est penché ce mois-ci donc sur le goût et sur la perte de saveur de nos aliments. Alors ce n'est pas neuf effectivement, mais de plus en plus l'industrie avec un fameux triptyque massification, compétitivité, praticité, eh bien en quelque sorte casse la diversité de nos aliments. Et donc on s'est penché un petit peu là-dessus pour voir comment, pourquoi et surtout comment on peut faire pour s'en sortir.
Et on se rend compte que ce que l'on mange a de moins en moins de vertus.
Oui, exactement. Donc il y a de moins en moins de nutriments, il y a de moins en moins de vitamines dans nos pommes, nos pêches, nos fruits, nos légumes. Et donc on a essayé de savoir un petit peu pourquoi. Et tout simplement, les raisons, c'est que le goût est une variable d'ajustement en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se concentre notamment, pour le cas de la salade, on se concentre sur le fait d'avoir des belles feuilles vertes qui se conservent de nombreux jours, mais on s'en fiche un petit peu du goût. Donc la laitue, par exemple, elle est supplantée par d'autres espèces de salades qui sont bien plus pratiques.
Alors on découvre aussi un magnifique et quelque part catastrophique reportage sur le Bangladesh, ce pays d'Asie qui coule.
Oui, c'est un portfolio en noir et blanc qui est effectivement très beau, mais aussi très glaçant, d'un photographe qui s'appelle Jules Toulet, qui s'est promené au Bangladesh pendant de nombreux mois. Ce pays, on le sait, qui est victime, alors, d'un côté de l'industrie textile, avec des sweatshops, des tanneries, où on meurt plus vite qu'on ne devrait, et aussi victime du changement climatique et de la hausse du niveau de la mer.
Alors justement, Jules Toulet est allé à la recherche de tous les signes témoignant de la hausse du niveau de la mer, et c'est vrai que le Bangladesh figure en tête des pays victimes de la montée des eaux. Alors c'est un pays quand même de 160 millions d'habitants qui pourrait perdre 20% de ses terres d'ici à 2050. Et on voit dans les photos noir et blanc, magnifiques photos de Jules Toulet, notamment les digues.
Oui, les digues sont évidemment très importantes puisque c'est un pays dont l'altitude est vraiment très très faible, qui est soumis à des typhons, des phénomènes climatiques extrêmes. Et du coup, tout ce qui rajoute quelques mètres d'altitude, donc notamment ces digues près des fleuves, autour des plaines noyées, sont évidemment absolument vitales.
Et pendant ce temps, l'Islande se soulève.
Oui, en Islande, ce sont les glaciers qui fondent. Là, ce n'est pas la mer qui monte, ce sont les glaciers qui fondent. Et une des conséquences terribles, c'est que la croûte terrestre, elle se lève, se surélève. Et dans certains coins de l'île, ça va jusqu'à 3 cm. Donc c'est assez important et ça pourrait avoir aussi des conséquences sur l'activité volcanique de l'île, qui, on le sait, est déjà assez intense.
Alors en même temps, les volcans, on sait, quand il y a des éruptions, ça fait des poussières et ça ralentit un petit peu les effets des changements climatiques. Mais c'est une étude donc récente de l'Université d'Arizona qui fait un point sur l'Islande. Il y a quand même 62 capteurs et enregistrements satellites qui sont placés partout sur l'île. C'est assez impressionnant ces phénomènes. On en parle souvent dans cette émission, vous aussi dans Terra Eco. Les changements climatiques, ce n'est plus simplement de la théorie scientifique. Aujourd'hui, on en voit les conséquences.
On en voit les conséquences et très souvent, ce sont les pays du Sud qui en souffrent les premiers.
Oui, les pays notamment les plus pauvres qui sont les plus vulnérables, alors que ce sont les moins émetteurs. C'est vraiment l'ironie des changements climatiques. Alors on est sans arrêt en recherche de données justement pour documenter ces phénomènes. Et alors vous avez un article sur la tour Hato. Alors la tour Hato, c'est une tour high-tech qui est plantée au cœur de l'Amazonie. Ça se passe au nord du Brésil.
Au nord du Brésil, donc depuis la grande ville de Manaus, il faut prendre d'abord une piste pendant 4 heures de route, puis un canot, puis une autre piste. Et là, on se retrouve au milieu de la forêt, à 2000 km à la ronde. Il n'y a que de la forêt, donc c'est une immense tour high-tech qui fera 325 mètres. Elle fait déjà, 325 mètres, mais elle ne sera mise en fonction qu'à la fin de l'année. Donc 325 mètres, pour se rendre compte, c'est plus haut que la tour Eiffel. Et du haut de cette tour, eh bien, on va capter plein de données scientifiques, géographiques, et surtout, on va étudier la formation des nuages, le rapport à la forêt, à la pluie, plein de choses qui vont aider les scientifiques.
Alors, autre sujet un peu désuet et extrêmement attachant finalement, c'est un vrai temple de la biodiversité que vous mettez en avant, qui existe à Saint-Pétersbourg, en Russie.
Oui, c'est l'Institut Vavilov, du nom de Nikolaï Vavilov, qui était un biologiste qui a recueilli dans les années 20 et les années 30 des centaines de milliers de semences. Donc c'est la quatrième bibliothèque ou semenceothèque au monde. Il y en a 323 000 des variétés végétales. Cet institut est vraiment immense. Il y a 500 employés. Il y a 2 millions d'ouvrages scientifiques en 26 langues. Il y a un herbier qui est riche de 260 000 spécimens. C'est vraiment énorme. Mais c'est un institut vraiment fondamental, mais qui est en danger aujourd'hui.
Il est en train de péricliter pour des raisons économiques.
Très clairement, pour des raisons économiques. Pour vous dire, c'est un très beau bâtiment au cœur de Saint-Pétersbourg, mais l'Institut, par exemple, n'a pas été rénové depuis 1853.
Et ces chercheurs vieillissent. Il y a d'ailleurs un tiers des chercheurs qui sont à la retraite, mais qui continuent à travailler bénévolement.
Exactement. La moyenne d'âge est de 54 ans. Ce sont avant tout des passionnés avant d'être des salariés. Et c'est vrai que c'est vraiment très très important le travail qu'ils font.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de recenser cette biodiversité, puisqu'on dit bien qu'on est actuellement en train de traverser la sixième période d'extinction. Après, si Gilles Boeuf, qui est l'un des spécialistes de la biodiversité qu'on entend souvent dans cette émission, était là, il dirait oui, mais la conservation de la biodiversité, c'est plus efficace dans les champs que dans les laboratoires.
Et c'est vrai, il a tout à fait raison.
Parce qu'on préserve plutôt des écosystèmes, c'est-à-dire l'interaction des espèces entre elles, plutôt que réellement des espèces.
Exactement, donc il faut les faire pousser, ces espèces, au maximum. Et pour celles qui sont comestibles, il faut les manger, et du coup là on revient au sujet de notre dossier sur le goût.
Voilà, et donc autre sujet, la pêche de Montreuil. Alors là pour le coup on ne parle pas d'alimentation, la pêche de Montreuil c'est une monnaie.
Une monnaie qu'on appelle une monnaie complémentaire, une monnaie locale. On échange des billets donc en pêche à Montreuil, en banlieue parisienne, ça s'appelle la pêche, mais il y en a plus d'une trentaine en France. On peut parler du sol violette dans le sud-ouest, il y a la doume, il y a le boussole à Boulogne-sur-Mer. Voilà, en général, on fait souvent des petits jeux de mots avec le nom de cette monnaie. Alors, quel est le but de ces monnaies complémentaires? Tout simplement, c'est de booster un petit peu l'économie locale. C'est-à-dire que dans une dizaine, une centaine de commerces autour de chez soi, on va pouvoir payer dans une autre monnaie et uniquement dans ces boutiques, dans ces commerces-là. Et donc, l'idée, c'est évidemment de consommer local pour maintenir une économie très proche de chez soi.
Et est-ce que ça marche?
Ça marche quand on voit le développement de ces monnaies locales. Il y en a de plus en plus. Ça marche vraiment très très bien en France. Après, il y a peut-être des améliorations pratiques. Notre reporter Claire Lenestour, qui a fait le test donc à Montreuil, quelques semaines après avoir fait le test, m'a montré dans son portefeuille un billet de 50 pêches montreuilloises encore dans son portefeuille, parce que malheureusement, elle n'avait pas réussi à les dépenser partout. Tout le monde ne les acceptait pas.
Oui, mais parce que l'enjeu, c'est la confiance. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les commerçants acceptent d'être payés dans cette monnaie qui n'a de valeur que si on accepte qu'elle devienne réellement une monnaie d'échange.
Exactement. Plus on réinjecte, plus ça marche. Mais encore faut-il faire confiance dans le consommateur et dans le commerçant dans l'autre sens. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple.
Mais ça se développe, cela dit, toutes ces monnaies locales de par le monde. Tous ces articles sont à lire dans le numéro daté d'avril de Terra Eco, que vous pouvez trouver en kiosque en France. Mais si vous n'avez pas cette chance, vous pouvez les retrouver aussi sur le site internet de Terra Eco, www.terraeco.net. Merci François Meurice.
Merci Anne-Cécile.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. I used to rob and steal, now I make food for thought. Fresh like the air you snort. I drop jewels, little nuggets of wisdom, seeds that keep growing. Pay my debts to society, so no more owing. Now it's showing and proving. Keep the body moving. Exercising the mind is scientifically proven to increase your lifeline, strengthen your heart. Eat fish, that brain food will get you smart. Yoga, deep meditation tactics. You know good than just practice, cause practice makes perfect. Stop burying the lies and bring the truth to the surface. Money is the root to all evil, that cash rule will have you out there looking like a damn fool. That's the devil's bait, the almighty Dollar Tree will have your mind full by technology. Make the right choice, no need for an apology.
to teach one, preach one, just knowledge the wisdom. Can't figure right from wrong, it's a tough decision. My vision is light, so come to me when yours black out. Follow the footprints as I lay the tracks out. He's a righteous God, I want the best for mankind. Navigate through this war without blowing a landmine. My light shine from the east, my brother. Verbally I spit, I'm a beast, my brother. Bust through the blackness, search for the ray of light. Don't walk barefooted through the grass, cause that's where the snake strikes. Protect your neck, evil lurks in the shadows. Darkness is best where the devil wins battles. The weak fall victim, the strong shine diligent. Gorilla, we gully, but man is a state militant. Superstars, our ego is so top billing it. Follow me, son, and I'll show you how I'm killing it. These wolves are vicious, a sign of danger. The changer, I'm about to pull you all through a chamber.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Anne-Cécile.
Lorsque l'on parle de changement climatique et de contraintes pour les pays, les personnes les plus avisées évoquent le protocole de Kyoto. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce protocole ?
Alors, pour commencer, après avoir compris cette question du changement climatique, il y a eu un traité international, la Convention de Rio, en 1992. C'est le texte de base. Mais assez vite après la signature de ce traité, en fait, on s'est aperçu que les pays ne passaient pas suffisamment à l'action. D'où un texte complémentaire, donc qui est adossé à la Convention de Rio, le protocole de Kyoto, qui a été adopté en 1997, et donc c'est lui qui est aujourd'hui le texte qui encadre les positions des pays dans ces négociations internationales.
Alors ce protocole avait pour objectif, qui est entré en vigueur en 2005, de fixer des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés,
tout
pas
à
pour
fait.
Tous.
Tout à fait, c'était ça le grand changement par rapport à la Convention de Rio. On s'est dit, la responsabilité majeure jusqu'à présent du réchauffement climatique, c'est les pays industrialisés, c'est aussi eux qui ont les capacités d'action. Donc on va donner aux pays industrialisés des obligations de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre pour la période donc de 90 à 2012. Il faut bien comprendre que dans l'histoire, c'est quelque chose de totalement inédit. Parce que ce qu'on vient de faire là, à Kyoto, c'était de mettre en place quelque chose qui est de l'ordre d'un rationnement. Un rationnement volontaire, souscrit par les pays, mais qui, sur quelque chose qui porte sur l'ensemble de leur économie, leur donne des objectifs de réduction. Par exemple, pour nous, Européens, à partir de 1990, on devait réduire nos émissions pour 2012 de 8% et pour 2020 de 20%.
Alors globalement, est-ce que les objectifs qui ont été fixés à Kyoto ont été atteints ?
Alors les objectifs ont été atteints par certains pays. Alors d'abord les pays de l'Est, parce qu'en fait il y a eu entre-temps, à partir de 1990, l'effondrement du communisme et ils ont perdu une grande partie de leur production industrielle.
Donc ils les ont atteints malgré eux.
Donc ils ont atteint facilement les objectifs qui leur étaient donnés. L'Union européenne atteint ses objectifs. En fait, en 2020, on devrait plutôt être à 27% de réduction des émissions par rapport à 1990. Le problème, c'est que les autres pays industrialisés, eux, n'ont pas atteint du tout leurs objectifs. Alors, c'est le cas du Japon, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est le cas de la Suisse, et puis, bien évidemment, les États-Unis n'étaient pas dans le protocole de Kyoto et l'Australie, donc non plus, ils n'ont pas réduit leurs émissions. Donc, en fait, il n'y a que les pays européens, en fait, qui tiennent leurs objectifs.
Donc, on peut dire que le protocole de Kyoto n'a pas vraiment marché.
Il a marché pour certains. Alors, le protocole de Kyoto, derrière ça, il contenait d'autres éléments.
Alors qu'on appelle les mécanismes de flexibilité. C'est un mot un peu compliqué et c'est vrai que ça fait débat. Donc, de quoi s'agit-il ?
Alors, au moment de la discussion de Kyoto, une fois qu'on avait dit des chiffres que les pays devaient atteindre, la question qui se posait, c'est comment ces pays vont-ils atteindre ces objectifs-là ? Alors, les Européens avaient dit, il faut qu'on ait des mesures qui vont s'appliquer à tous les pays de façon uniforme, notamment ces pays industrialisés. Par exemple, l'idée de taxes. Les États-Unis étaient contre. Les États-Unis ont proposé quelque chose d'autre.
qui est ce qu'on a appelé les permis négociables, c'est-à-dire que on fixe des obligations de réduction, alors au pays, mais aussi à des entreprises, mais aussi à des grandes installations industrielles, notamment énergétiques. Donc avec des chiffres à ne pas dépasser, sous peine de pénalité. Et puis derrière, d'ouvrir une possibilité d'échange. C'est-à-dire un industriel qui est capable d'atteindre un objectif par ses investissements propres. Il le fait, il respecte les quotas, il n'a pas de pénalité. Mais imaginons qu'il ait des installations qui sont assez récentes, il va pas les changer. Et donc à ce moment-là, il va chercher autour de lui une autre entreprise qui, elle, est en période de faire des gros investissements. Et il va acheter une partie des réductions permises par ses investissements pour les mettre dans son compte. Et à ce moment-là, pas d'amende. Et donc on est dans un dispositif un peu compliqué qui est d'un côté une obligation politique, administrative, contraignante. Et là, on est dans plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une économie publique. Mais derrière, pour atteindre l'objectif qui est demandé, la possibilité de faire des échanges sur le marché. Donc on est dans un système hybride. Faut bien comprendre que cette affaire-là, elle est extrêmement importante et importante pour le futur. Pourquoi ? Parce qu'on est clairement dans un monde aujourd'hui où on a des limites qui sont les limites de la planète. On peut pas utiliser plus de ressources que la planète n'en a. Et donc, on apprend, avec ces mécanismes-là, à faire des réglementations sur des volumes, quitte derrière à faciliter l'application de ça sur le marché. Alors, on peut, pour essayer de comprendre ça, faire référence quand même à un auteur important pour nous en France, Montesquieu. Qu'est-ce que Montesquieu espérait ? C'est qu'on fasse payer le vice et qu'on rémunère la vertu. Ah, clairement, c'est bien que émettre du gaz carbonique ne soit pas gratuit. Et donc, on va vers ces mécanismes-là, mais il faut bien comprendre qu'au départ, c'est une décision politique.
Et c'est donc ce qui a donné naissance au marché carbone. Alors, est-ce que ces mécanismes ont concerné les pays en développement ?
Alors, ces mécanismes concernent les pays en développement, puisqu'à Kyoto a été décidé que si un pays industrialisé ou une entreprise qui est assujettie à ce type de contraintes veut faire des investissements, encore une fois, pour éviter les pénalités, elle peut non seulement le faire dans son pays, mais elle peut aussi le faire dans un pays en développement. Et à ce moment-là, le pays en développement, il va se retrouver avec une installation industrielle de bonne qualité, bonne pour son futur par rapport à cette question du réchauffement climatique, et il va bénéficier d'un investissement de bonne qualité de la part d'un pays industrialisé.
Alors, dernier point, en quoi consiste la fixation à Kyoto d'accords contraignants en droit international ?
Alors ça, c'est le troisième aspect, c'est le plus compliqué. On comprend bien qu'il est essentiel, à partir du moment où des pays prennent des obligations, qu'ils respectent leurs engagements. Parce que si quelques-uns se mettent à tricher, ne respectent pas leurs engagements, tout le monde va perdre confiance. Et si tout le monde perd confiance, tout le monde va dire « j'ai signé un papier, mais je vais pas le respecter ». Donc, il va falloir, à un moment, sur la scène internationale, qu'on progresse sur l'idée que quand un pays prend des engagements, solennellement, vis-à-vis de l'ensemble des pays du monde, il doit tenir ses engagements. Le problème, c'est que le droit international, aujourd'hui, permet pas ça, et qu'il y a bien évidemment beaucoup de pays qui s'y opposent.
Donc, en fait, pour l'accord de Paris, il faut tirer des leçons des échecs de l'accord de Kyoto.
Eh bien, l'accord de Paris va prendre la suite du protocole de Kyoto, et là, c'est une nouvelle page à écrire, mais cette fois-ci, en incluant tous les pays de la planète.
Merci Pierre Radan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Restez sur RFI, dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous verrons le lien étroit et de plus en plus critique entre changement climatique et migration à l'occasion d'une conférence que la Fondation Nicolas Hulot a organisée cette semaine à Paris. À tout de suite.